Chapitre 4. Malheur et idéal. Mais c'est l'année suivante seulement qu'il va trouver sa voie. Un soir qu'il est à l'opéra, il remarque dans un petit rôle une jeune cantatrice au timbre clair, aux cheveux blonds, à la bouche attrayante. Il apprend qu'elle se nomme Constance Gladkowska et qu'elle est encore élève au conservatoire. L'impression que produit sur lui cette jeune fille est vive, mais toute pure et enfantine. Obtenir le ruban qui noue sa chevelure, mourir en le tenant caché sur sa poitrine, suffirait à ses désirs. Et si léger est ce sentiment, qu'il n'en fait d'abord confidence à personne. Au demeurant, une autre pensée le travaille davantage, celle de quitter Varsovie, parce qu'il sent bien en avoir épuisé les ressources musicales. Au mois de juillet 1829, son père le munit de quelque argent durement économisé, et le jeune compositeur, en qui maintenant de tous côtés tant d'espoirs sont fondés, peut partir pour Vienne. Sa première visite est pour Haslinger, l'éditeur de musique, grand bénisseur qui le reçoit à bras ouverts et déjà le surnomme « la nouvelle étoile du Nord ». Mais Chopin, qui n'a pas 20 ans, est méfiant et sceptique. On le présente au comte Kallenberg, intendant des théâtres impériaux. On l'encourage à donner un concert.
« Ce qui rassure Kallenberg,
écrit-il à ses parents,
c'est que je ne m'attaquerai pas à ses poches. Je jouerai sans exiger d'honoraires. Je pose ici pour le désintéressement et pour le dilettante. Je suis musicien par amour de l'art. »
Le concert eut lieu au Théâtre Impérial, le 11 août, à 7 heures du soir. L'orchestre joua une ouverture de Beethoven, des airs de Rossini, puis le frêle Chopin, d'apparence déjà maladive, s'avança sur l'estrade. Une vieille dame assise au premier rang s'exclama à mi-voix « Quel dommage que ce jeune homme n'ait pas meilleure tournure !» Mais Chopin était plus blême de colère que d'émotion, car l'orchestre, n'ayant pas réussi à déchiffrer ses variations, l'obligeait à changer de programme. Il improvisa donc sur un thème de la Dame Blanche, puis sur l'air polonais de Schmiel. Liszt excepté, personne jamais n'improvisa comme Chopin. Sous sa main élégante s'ouvrait un monde velouté de douleurs légères, où chacun frémissait de surprendre un souvenir de ses mélancolies. Et le vieillard, comme la jeune demoiselle, suivait avec délice ses chuchotements exquis. Mais le pouvoir des poètes, quel est-il, sinon de faire chanter votre âme, dont mieux que vous il possède le secret? Tel fut le succès de ce premier concert, que Chopin se décide à en donner un second une semaine plus tard. Et cette fois, il joue sa Krakowiak, que l'orchestre a répétée, et ses variations sur le Lachidarem. Le comte Lichnowsky, l'ami de Beethoven, est présent et applaudit à tout rompre. Public, musiciens et critiques laissent percer leur surprise, car tout est neuf en Chopin, et la forme comme le fond. Le public a reconnu dans ce jeune homme un grand artiste, en raison de l'originalité de son jeu et de ses compositions, on pourrait presque lui attribuer du génie, dit la Wiener Theaterzeitung. Et l'Allgemeine Musikalische, l'exquise délicatesse de son toucher, l'indescriptible dextérité de son mécanisme, le fini de ses nuances qui reflètent la plus profonde sensibilité, la clarté de son interprétation et de ses compositions qui portent la marque d'un grand génie, révèle un virtuose favorisé par la nature et qui, sans réclame préalable, apparaît à l'horizon comme un de ses plus brillants météores. Une seule critique, celle-là même que Chopin s'adresse. Il joue trop doux, il manque d'éclat et de sonorité.
Il n'y a presque qu'une voix pour dire que je joue trop doucement, ou plutôt trop tendrement pour le public d'ici, écrit-il à ses parents. On est habitué aux grosses caisses des virtuoses, mais... j'aime mieux qu'on dise que j'ai été trop doux que trop brutal.
Et dans une autre lettre?
C'est ma façon de jouer, mais je sais qu'elle plaît infiniment aux femmes et aux artistes.
3 semaines après, il découvre sa maladie en écrivant une valse.
J'ai peut-être pour mon malheur trouvé mon idéal. Il y a déjà 6 mois que j'en rêve chaque nuit et je ne lui ai pas encore adressé la parole. C'est à son intention que j'ai composé l'adagio de mon concerto, en fa mineur, opus 21, aussi bien que la valse, opus 70, numéro 3, écrite ce matin même et que je t'envoie. Remarque le passage marqué d'une croix. Personne, toi excepté, n'en sait la signification. Que je serais heureux, mon bien-aimé, si je pouvais te la jouer. Dans la cinquième mesure du trio, la mélodie grave domine jusqu'au mi bémol d'en haut, en clé de sol. Je ne devrais pas te le dire, étant sûr que tu l'aurais senti de toi-même.
Cette confidence s'adresse à Titus, l'ami cher entre tous, parce qu'il est musicien, comme lui. Et Chopin trouve du premier coup les deux mots qui seront désormais les clés de toute sa vie. Malheur et idéal. Ils donnent une atmosphère, peut-être même ils la donnent trop. Mais s'ils ont perdu de leur prestige depuis, restituons-leur en esprit une valeur active de poésie. Dans cette Europe qui s'ouvrait au romantisme et respirait avec ferveur un vocabulaire trop magnifique, il y a la foi qui transporte et la candeur qui enfante les œuvres de l'amour et celles de l'histoire. À un mauvais temps, un temps de fou et de folle, dit M. Charles Maurras. Dans ce malheur, dans cet idéal, il s'agit naturellement de Constance Gladkowska. Et il ajoute quelque temps après
« Tu ne peux imaginer combien Varsovie me semble triste. Si je ne me sentais heureux dans le cercle de ma famille, je n'y tiendrais pas ici. Ah, il est amer de n'avoir personne avec qui partager la tristesse et la joie. Ah, qu'il est affreux, quand le cœur est oppressé, de ne pouvoir l'épancher. Tu sais ce que je veux dire. Maintes fois, je raconte à mon piano ce que je voudrais te confier à toi. »
Il écoute beaucoup de musique et reste très frappé par le dernier des trios de Beethoven. « Jamais il n'a rien entendu de plus grand, » dit-il. Il compose. Il va à l'opéra. Mademoiselle Gladkowska y débute dans l'Agnès de Père, et il admire son jeu, sa beauté, l'étendue de sa voix.
« Elle phrase et nuance délicieusement. Sa voix, au début, tremblait légèrement, mais elle se remit bientôt de son trouble. On l'a couverte d'applaudissements. »
Il fait sa connaissance, l'accompagne au piano, se sent mourir de tristesse et d'incertitude. Doit-il partir? Faut-il rester? Il se décide à accepter une invitation du prince Radziwill et va passer une semaine d'automne à Antonin. Il y est reçu en grand homme, fait de la musique avec le prince, qui est l'auteur d'une partition de Faust. Deux Ève charmantes ornaient ce paradis.
Je veux parler des deux jeunes princesses, aimables, musicales et tendres créatures. Quant à la princesse mère, elle sait que ce n'est pas la naissance qui fait la valeur de l'homme.
Les princesses le savent aussi, et elles s'amusent à se faire donner des leçons par cet artiste à la peau de jeune fille. Vanda le laisse jouer avec ses doigts, auxquels il faut apprendre une position correcte. Élise fait son portrait.
La princesse Vanda a un sentiment vrai de la musique. Point n'est besoin de lui répéter sans cesse « ici crescendo, là piano, ici plus lentement, là plus vite ». J'ai dû lui promettre de lui envoyer ma polonaise en fa mineur.
Il écrit une autre polonaise, pour piano et violoncelle.
C'est un brillant morceau, à l'usage des dames.
Il n'oublie pas Constance, bien que la princesse Élise le ravisse. Mais il se reconnaît le pouvoir d'être charmé en toute pureté par deux êtres en même temps. Il n'oublie pas son cher Titus, au cœur sauvage et silencieux. Dans un moment d'expansion, il lui écrit
« J'aurais beau oindre mon corps des parfums les plus rares de Byzance, tu refuserais encore de m'embrasser si je ne savais t'y contraindre par une sorte d'attraction magnétique. Mais il y a dans la nature des forces secrètes. »
Rentré à Varsovie, il décide d'y donner un concert où Constance viendra. Elle ne saurait manquer de comprendre que c'est à elle qu'il dédie sa jeune gloire. Et en effet, ce concert a lieu le 17 mars 1830, alors qu'il vient de toucher ses 20 ans. Cet événement suscite un intérêt extraordinaire. La salle est comble. Au programme, panaché, comme c'est la mode, de la musique d'Elsner, de Kourpinski, un solo de cordes chasse, du chant. La part de Chopin comporte son concerto en fa mineur et un pot-pourri sur des airs nationaux. Mais l'effet produit n'est pas tel qu'il l'a espéré. Les connaisseurs seuls ont compris et apprécié l'originalité de l'artiste. Toutefois, Constance, assise au premier rang, lui sourit, et il se trouve payé. Un second concert, à quelques jours du premier, réussit plus brillamment, et le rondo à la cracoviaque déchaîne l'enthousiasme. De toutes parts partent des cris. « Un troisième concert ! Un troisième concert !» Cette fois, il semble bien que la critique, la foule et les amateurs soient tous d'accord pour déclarer Chopin le pianiste et le compositeur le plus éminent de Pologne. Et pourtant, les semaines s'écoulent sans lui apporter de véritable joie. Ses amours pour Titus et Constance le soutiennent et le travaillent. Ils portent sur son cœur leurs lettres. C'est pour eux seuls qu'il compose, et il lui semble que tant qu'ils n'ont pas entendu sa plus récente musique, elle ne vaut rien.
Le travail me presse, j'écris à force. Souvent je fais du jour la nuit, et de la nuit le jour. Je vis dans un rêve et je dors pendant mes veilles. Oui, pis encore, c'est comme si je devais dormir toujours puisque je sens éternellement la même chose. Mais au lieu de puiser des forces dans cette somnolence, je me tourmente davantage et m'affaiblis encore.
Il travaille son adagio en mi majeur, qui doit être
romantique, calme, mélancolique.
Et évoquer
quantité de souvenirs agréables. Cela doit être semblable à une rêverie pendant une nuit de printemps éclairée par la lune. Si c'est mauvais, qu'importe. Tu y reconnaîtras mon défaut de faire mal contre ma volonté. Mais cela vient de ce que quelque chose m'est entré par les yeux, dans le cœur, contre ma volonté aussi. Cela me presse, me tourmente, bien que je l'aime et le chérisse.
En sortant de l'église, un jour, il aperçoit Constance.
Mes yeux ont surpris son regard. Alors je m'élançai dans la rue et il me fallut un quart d'heure pour revenir à moi. Je suis parfois si fou que c'en est effrayant. Mais de samedi en 8, je partirai, quoi qu'il arrive. Je mettrai ma musique dans ma valise, son ruban dans mon âme sous mon bras et en avant, dans la diligence.
Le 11 octobre, enfin, il donne un dernier concert auquel Mademoiselle Gladkowska prête son concours. Frédéric joue une toute nouvelle œuvre qu'il vient d'achever, le concerto en mi mineur, et une fantaisie sur des airs polonais. Vêtue de blanc et couronnée de roses, Mademoiselle Gladkowska chante la cavatine de la Dame du Lac de Rossini.
Tu connais le motif « O cante lagrime per te Versailles » écrit Chopin à Titus. Elle a dit le tuto de testo jusqu'au si grave d'une façon admirable. Zielinski déclarait que ce si, à lui seul, valait 1000 ducats. Après l'avoir reconduite de la scène, je jouerai mon pot pourri sur le coucher de la lune. Cette fois, du moins, je me suis compris moi-même. L'orchestre s'est compris, et le parterre nous a compris. Maintenant, il ne me reste plus qu'à boucler ma malle. Mon trousseau est prêt, mes partitions sont recopiées, mes mouchoirs ourlés, mon pantalon neuf essayé.
Qu'est-ce qu'il attend encore? C'est comme une dernière chance que le destin lui offre. Il ne la saisira pas. Quant à Constance, elle ne le revit plus. 2 ans après, elle épousa un gentilhomme campagnard. Puis, les yeux bleus que le poète avait aimés, par quelle étrange faveur du ciel se fermèrent-ils à la lumière? Constance perdit la vue. Parfois, cependant, elle se mettait encore au piano et chantait la belle chanson « Quante lagrime per te Versailles ». Quelqu'un qui l'a connue vers la fin de sa vie racontait que, de ses yeux, restés limpides malgré leur cécité, tombaient alors des pleurs.